Everyday, anywhere, anytime, the Digital Gospel Journal, Ebenezer International, your station.
Plus que jamais, frères et sœurs, nos enfants ont besoin, même s'ils ne le crient pas sur les toits, ils ont besoin de repères fiables et sûrs, de bases morales solides sur lesquelles ils pourront construire leur vie future. Cela commence, pour ceux qui sont déjà mariés, par un engagement quotidien pour le succès de notre union, le succès de notre mariage, quelque dur que cela puisse être si souvent.
Amis à l'écoute, bonjour. Ce m'est un grand plaisir de vous retrouver sur la radio Ebenezer International pour passer en votre compagnie ce moment d'édification spirituelle. Si c'est pour la toute première fois que vous nous écoutez, sachez que nous sommes une radio chrétienne au service des églises, des pasteurs, des évangélistes, des artistes, des groupes musicaux et des organisations socio-humanitaires. Nous avons divers programmes qui peuvent vous intéresser. Vous êtes libre de faire un tour sur notre site www.francradio.podomatic.com. Je répète, www.francradio.podomatic.com pour en savoir plus. Nous serions heureux de recevoir vos réactions et vos suggestions concernant nos programmes. N'oubliez pas d'envoyer notre lien à tous ceux qui pourront s'y intéresser. Je vous rappelle que vous êtes sur la radio Ebenezer International à l'heure de Logos Pod. Et dans quelques instants, nous allons accueillir le prédicateur du jour, le responsable de la radio, Franck Doristil, qui va nous apporter un message autour de la famille à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Message qu'il a délivré à l'église évangélique baptiste de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise en France. Mais juste avant de lui céder le micro, nous vous proposons ce titre de Danny Hurtrell, La vie en couleur. Quant à moi, je vous souhaite une agréable écoute. Gospod.
Un ciel chargé de nuages a noirci le paysage de ma vie. Et orage après orage, la pluie a fait ses ravages. C'est la vie. Ciel bleu, juste le temps de croire qu'on est heureux, mais le temps qui passe efface la couleur et reviennent les pleurs. Qui pourra tirer ce rideau noir et laisser le soleil repeindre ma vie?
Gospod.
Percé tous mes nuages, plaçant sur mon pays.
Nous remercions Dany Hurtrel pour ce beau chant, La vie en couleur. Et sans tarder, nous allons céder le micro au prédicateur du jour, Franck Doristil, pour le message de la semaine autour de la famille. Quant à moi, je vous souhaite une agréable écoute.
Frères et sœurs, la lecture de la parole de Dieu se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, les versets 15 à 22. Proverbes 5, versets 15 à 22.
Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi et pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Et on peut aussi faire un petit tour au début de ce chapitre, dans le verset premier. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est comme errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le titre que je donnerai à cette réflexion, c'est « Survie de la famille en période de grande crise ». Survie de la famille en période de grande crise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce mot « crise ». Une journée ne passera pas sans que vous entendiez quelqu'un dire « voilà, crise économique ». Aujourd'hui, chers amis, que ce soit dans l'église ou ailleurs, il n'est pas du tout facile d'aborder les sujets peu communs, surtout quand cela a rapport avec la vie privée des gens. Nous entendons souvent les expressions « cela peut nous arriver tous hein, »,« ça peut arriver à tout le monde » ou encore « nul n'est parfait ». Et c'est une façon de dire à ceux qui veulent aborder ces thèmes, ces sujets, tout simplement « taisez-vous ». Nous sommes tous dans le même panier. Ou bien, essayez de parler d'autre chose. Ne nous cassez pas les oreilles. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, on est tous pareils. L'homme est imparfait. Quand vous essayez d'aborder un sujet qui a rapport à la vie privée, c'est surtout de cette façon que certaines personnes réagissent. Et ce qui est pire, frères et sœurs, c'est que parfois, on fait appel à des versets bibliques pour soutenir ces déclarations très fatalistes du point de vue spirituel. Et une chose qu'oublient ces gens, c'est que souvent les textes de l'apôtre Paul qu'on prend pour soutenir ces déclarations négatives, pessimistes, c'est que ce même Paul qui dans Romains chapitre 7, versets 16 à 25, qui nous parlait de l'incapacité de la chair d'accomplir la volonté de Dieu, texte qu'on utilise souvent, malheureusement, pour encourager les péchés de la chair. C'est le même Paul, s'il vous plaît, qui a écrit le livre des Galates. Quand nous lisons le chapitre 2, verset 20, par exemple, « Si je vis, Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et il continue pour dire, j'ai été crucifié avec Christ. La vie que je vis maintenant, c'est la vie de Christ que je vis. Ce n'est pas ma propre vie selon la chair. Vous voyez la différence entre ces deux textes. Dans un premier côté, il vous montre comment la chair ne peut rien faire de bon. Même lui, il n'est pas exempt. Et de notre côté, il nous dit, voilà, quand je suis maintenant en Christ, voilà la vie que je suis en mesure de mener. Une vie de victoire, une vie triomphante. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est toujours ce même Paul qui a écrit Romains chapitre 6, le verset 12, et surtout le livre des Galates, où il parle des péchés de la chair et de la vie de l'esprit. Quand quelqu'un vit par l'esprit, c'est une vie de victoire, victoire sur le péché, sur la chair, une vie de sainteté, une vie consacrée à Christ. Et il fait le parallèle entre la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Beaucoup de gens restent coincés dans ce petit texte de Romains chapitre 7 pour encourager les péchés de la chair. Ils oublient les autres enseignements de la parole de Dieu sur une vie sanctifiée. C'est ce même Paul qui a écrit ces deux textes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans cette autre idée, je me dis parfois, si la Bible, la parole de Dieu, devrait être écrite par les hommes de notre génération, Dieu seul sait quel en serait le résultat. On aurait certainement un livre volumineux, attrayant, plaisant à tout le monde, même à ceux qui n'ont aucune confiance en Dieu, qui ne croient même pas en son existence. Ils pourraient lire ce livre avec beaucoup d'admiration, beaucoup de plaisir. Mais ce serait aussi un livre bien différent de celle que nous avons aujourd'hui, que nous appelons la Bible, la parole de Dieu. Avec des enseignements éloignés de plusieurs années de lumière de ce que Dieu veut enseigner à son peuple, de ce que Dieu veut que son peuple apprenne. Mais gloire soit rendue à Dieu, la Bible a déjà été écrite et toutes les générations n'ont qu'une chose à faire, la lire et la mettre en pratique, tout simplement. La parole est écrite, elle est là. Ce n'est pas à nous de la réécrire. Notre devoir, notre responsabilité, c'est de la lire, la mettre en pratique. Mon introduction commence un petit peu comme un livre qu'on écrit, comme c'est pas un message, mais j'avais jugé nécessaire de le faire pour attirer beaucoup plus encore votre attention sur l'enseignement de la parole de Dieu et les traditions humaines, ce que notre société croit, ce qu'on accepte, ce qu'on pense être bon et ce que Dieu veut, lui, que nous pratiquions dans notre vie. Chers amis, une grande tempête s'annonce à l'horizon. Les bases de la famille traditionnelle sont menacées. La société actuelle est dans un grand tourbillon moral. Tous les moyens sont réunis pour saper les bases du mariage biblique, pour le remettre au placard, comme on pouvait dire. Et le bonheur futur de nos enfants, ça je mets beaucoup d'accent là-dessus, le bonheur futur de nos enfants dépend de nos valeurs morales actuelles et leur mise en application dans notre vie quotidienne. Nous avons des enfants, je ne sais pas combien vous en avez, moi Dieu nous a donné 4. Leur bonheur dans la vie présente et dans leur vie future dépend de la façon dont Gerline et moi nous appliquions les principes moraux que nous trouvons dans la Bible, dans notre vie quotidienne. Le bonheur de nos enfants ne dépendra pas de ce que nous aurons mis en banque pour eux. Soit banque, bon, je ne cite pas leur nom, je ne fais pas de promotion, de publicité gratuite. Mais leur bonheur ne dépend pas vraiment, ne dépend nullement du compte en banque que nous allons créer pour eux. La plus grande richesse que nous pouvons donner à nos 4 garçons, c'est l'exemple de la vie que nous menons actuellement. Une vie morale, sanctifiée, une vie assise sur de bons principes moraux. Voilà la plus grande richesse, le plus grand trésor que nous devons mettre en banque pour nos enfants. Pour qu'ils soient heureux demain, dans leur famille, dans leur couple. Nous sommes leur modèle, leur exemple, leur référence. Plus que jamais, frères et sœurs, nos enfants ont besoin, même s'ils ne le crient pas sur les toits, ils ont besoin de repères fiables et sûrs, de bases morales solides sur lesquelles ils pourront construire leur vie future. Cela commence, pour ceux qui sont déjà mariés, par un engagement quotidien pour le succès de notre union, le succès de notre mariage, quelque dur que cela puisse être si souvent, très souvent. C'est pas facile. Je suis un petit jeune par rapport à beaucoup d'entre vous qui ont 20, 25 ans, 30 ans de mariage. Mais je sais que c'est pas facile. Parfois un petit problème d'humeur là, et puis voilà, une réponse qui aurait dû être plus douce, plus tendre, et puis voilà ça. Et puis voilà, on dirait qu'on était en guerre depuis des années, pourtant juste une mauvaise humeur, et puis voilà, ça change tout, ça casse tout, comme on dit ici. Un petit mot déplacé, et puis voilà, on a tout en chamboulé en une fraction de seconde. C'est pas facile, mais le bonheur de nos enfants, de nos petits bouts de chou, dépend de notre façon de gérer ces petits problèmes nuls, sans importance, qui ont été la cause de pas mal de divorces. Notre façon de gérer ces choses, et les enfants observent, même s'ils ne disent rien, ils observent. Et notre comportement dans ces situations difficiles leur servira de leçon demain, soit une bonne ou une mauvaise leçon. De nos jours, frères et sœurs, parler de la fidélité dans le couple peut paraître ridicule pour certaines personnes. Pourtant, cela doit faire partie de nos trésors les plus précieux dans la vie d'ici-bas. Fidélité dans le mariage, fidélité conjugale, cela doit être l'un de nos trésors les plus précieux. Pourquoi je ne dis pas le trésor le plus précieux? Parce que Jésus dans notre vie, notre salut, c'est le trésor. L'évangile, le message de l'évangile, notre salut, notre rédemption, c'est notre plus grand trésor. Mais, après avoir fondé un foyer, nous engager dans le mariage, la fidélité dans ce lien sacré est le plus grand trésor que nous avons à protéger, à sécuriser dans cette vie. Je l'ai déjà dit, le bonheur de nos enfants, le bien-être de nos enfants en dépend pour la vie, dans la vie présente et dans la vie future. Parler de fidélité dans le couple peut paraître ridicule pour certaines personnes. Pourtant, cela doit faire partie de nos trésors les plus précieux dans la vie d'ici-bas. En abordant ce sujet dans certains milieux, frères et sœurs, nous risquons la lapidation, hein, pour utiliser un langage imagé. Malgré tout, même si nous n'y faisons pas allusion dans toutes nos conversations, dans tous nos discours, à tout bout de champ, ce principe doit nous accompagner dans toutes nos démarches. La société d'aujourd'hui n'apprécie guère ce qui est différent. La tendance est à l'uniformité. Il faut que tout le monde se ressemble, tout le monde parle de la même façon, tout le monde aime la même chose. Une exception que j'ai mise de côté au cours de ces derniers jours, c'est sauf dans les vêtements des écoliers, enfin surtout, qui est actuellement un sujet de débat. Les gens n'aiment pas que les enfants portent l'uniforme à l'école. Beaucoup de gens n'aiment pas ça. Donc, quand le ministre dit que c'est l'un de ses souhaits pour l'école française, eh bien, il y a beaucoup de murmures. Ils n'aiment pas que les enfants portent l'uniforme. Non, non, non. Mais dans les autres domaines, on tient à ce que vous soyez dans l'uniformité. On ne veut pas que vous preniez position contre tel ou tel sujet moral. On ne veut pas que vous vous immisciez dans la vie privée des gens. Ça, c'est leur vie. Même si leur foyer est en train de basculer, de naufrager, vous avez un petit conseil salutaire. C'est leur vie privée. Laissez-les mourir. Laissez-les. C'est leur vie privée. Vous voyez l'hypocrisie de cette société? Laissez-les se casser la figure dans le mur. Laissez-les. Non, non, c'est gentil, mais laissez-les. C'est leur vie privée. Allez, occupez-vous de vos affaires. Mais dans les autres domaines, il faut l'uniformité, mais pas à l'école, donc. Frères et sœurs, jusqu'où un homme peut aller dans ses relations en dehors du mariage? Quel genre de rapport un conjoint peut-il développer avec un autre homme ou une autre femme? Qui peut oser leur imposer des limites dans cette société actuelle? Qui peut oser imposer aux conjoints, aux époux, aux épouses, des limites en ce qui concerne les relations extra-conjugales? Qui lève le petit doigt? On est tous dans le même panier. On est tous imparfaits. Taisez-vous. Parlez-nous d'autre chose. Quelqu'un peut même dire, seul un malade mental peut faire cette déclaration. Seul un malade mental peut prendre cette position. Seul un malade mental peut aborder ce sujet. Parce que c'est démodé, cette question de fidélité dans la vie conjugale. Cette question à une seule femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il semble avoir raison, frères et sœurs, car aujourd'hui, beaucoup de voix se sont levées pour faire tomber toutes les limites. Les médias nous balancent dans la figure des émissions en plein jour, sans se soucier de l'âge de nos petits bouts de chou, tout innocents, qui n'ont aucune envie de voir ces choses que pour l'instant, seuls leurs parents sont les mieux placés pour leur expliquer. Ces gens, ils ne pensent pas aux enfants qui, à 7 heures, après le repas du soir, sont dans le salon, la salle à manger avec leurs parents, regardant la télé. Ce n'est pas leur problème. Ils vous diffusent tout, tout, à vous de choisir. Il suffit que ça rapporte. Des sujets que seuls nous, les parents, nous sommes les mieux placés pour aborder avec eux au cours de cet âge tendre. Et pourtant, la télé ne fait pas d'exception actuellement. Il y a des émissions crues que vous entendez sur certaines chaînes de radio au cours de la journée. Qui va leur dire, voilà, ne faites pas ça. On est libre, comme l'a dit l'autre, notre frère. On veut leur faire croire qu'ils peuvent tout voir, tout comprendre, tout assimiler, sans aucun problème. Les sujets les plus crus sont intercalés dans des émissions où ils n'ont aucune place vraiment. Je ne cite pas d'émissions, mais vous avez déjà une idée. Certaines émissions, les gens viennent pour gagner 1 200, 2 000, 3 000 euros. Et puis, on pose des questions. N'importe quoi. Je me demande pour quelle raison ils choisissent ces questions à cette heure-là. Parfois, des enfants, ils posent ces questions à des enfants. En face, devant leurs parents, des questions concernant la vie intime de leurs parents, en plein jour comme ça. C'est une sorte de massacre moral, psychologique même. Mettre l'enfant à la même position que ses parents. À chaque étape, il y a un niveau de connaissance à chaque étape. On veut que l'enfant apprenne tout pendant qu'il est enfant. Et puis on s'étonne maintenant à ce qu'il y ait tous ces viols, ces crimes. Il les prépare pour ces situations. Chers amis, écoutez. On invente des émissions pour pousser les couples jusqu'au bout de leur résistance morale en faisant miroiter devant eux des tentations de toutes sortes. Ça aussi vous parle. On met des couples dans des situations pour qu'ils soient tentés à chaque instant pour voir leur résistance. C'est inhumain de traiter les gens comme ça. de massacrer la famille comme ça. Je trouve que c'est regrettable. Et personne ne dit rien. Ça amuse les gens, ça rapporte de l'argent.
Une première pause avec l'artiste Felana. Seigneur, tu entends. Bonne écoute.
Et dans d'autres cas, on pense nous faire croire que la femme n'est belle que lorsqu'elle se sent libre d'exposer son corps dans une vitrine sans en avoir aucune honte, aucune pudeur. C'est ce que j'ai tiré comme leçon après avoir visionné quelques minutes d'une émission récemment. Une femme qui est vraiment libre, qui est vraiment belle, c'est une femme qui n'a aucune honte d'exposer son corps devant tout le monde. Vous comprenez ce que je dis? Voilà une femme libre. C'est ça la liberté. C'est ça la beauté. Ça ne passera pas pour moi. Chers amis, voilà la due responsabilité qui attend le vrai père et la vraie mère dans une société hostile, en pleine dégénérescence morale. N'est-ce pas ce qui m'a scotché à ce passage sans pouvoir passer à un autre en considérant la volonté de Dieu pour le foyer chrétien et plus particulièrement pour le couple chrétien? N'est-ce pas l'ampleur de cette tâche qui m'a poussé à choisir ce message qui ne convient nullement à un culte d'adoration? Notre responsabilité dans le foyer, dans l'éducation de nos enfants. Revenons rapidement dans ce texte, frères et sœurs, où nous trouvons, pour commencer, trois images frappantes. Trois images, si vous prenez note, s'il vous plaît. Trois images frappantes. La toute première, avant de la prendre. Contrairement à certains programmes de télé d'une vulgarité flagrante, le Seigneur, notre Dieu, par le biais de son serviteur Salomon, aborde un sujet délicat qui à l'époque était très tabou, je pense. Mais il a abordé ce sujet délicat avec beaucoup de respect, avec beaucoup de discrétion. Regardez bien, trois mots presque synonymes sont utilisés pour aider l'homme à comprendre la valeur et l'importance de son épouse, sa conjointe. Tout d'abord, le mot citerne, une puits, une source, dans le texte que nous avons lu. Trois images. Bois les eaux de ta citerne, verset 15. Les eaux qui sortent de ton puits, les sources, tes sources doivent-elles couler, se répandre dans les places publiques? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Quelle belle image! Les poètes sont en voie de disparition. La poésie qui fait vibrer l'âme et le cœur. Ces vers qui donnent envie de vivre, la joie de vivre, il semble qu'on ne les écrit plus. Pourtant, ça fait tellement du bien d'entendre de belles paroles, bonnes paroles, c'est ce que nous dit Salomon. Mes frères, je l'ai déjà dit ici, prenez vos plumes parfois pour écrire de petits mots tendres. Est-ce que vous êtes là avec moi, mes bien-aimés? Oh là là, vous êtes trop froid. Les frères! Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde au travail. Envoyez un petit SMS. Quelques mots, demandez à Dieu de vous donner de la créativité. Répétez ce mot s'il vous plaît, créativité. Allez-y encore, créativité. Un petit SMS, ça fait du bien. Un petit mot en anglais, même si vous ne parlez pas l'anglais, même si vous ne savez pas comment ça s'écrit, mais dites-le, I love you baby. On peut le dire, ça c'est facile. Même si vous l'écrivez n'importe comment. Frères et sœurs, c'est vrai, c'est pour votre bien. Te quiero mucho. Tout le monde peut le dire, ça. Ah, frères et sœurs, quand on voit ce qui arrive à la famille aujourd'hui, des enfants malheureux, pourtant un simple petit mot pouvait faire basculer les choses dans l'autre direction. Ah, les poètes, que Dieu suscite des poètes dans notre assemblée. Dans vos prochaines rencontres un jour, consacrez un petit moment pour échanger de petits vers que vous avez écrits, des vers anonymes pour la bien-aimée. Oh, ça fera du bien au ciel. Ça réjouira le Seigneur de voir des gens qui travaillent pour le bien-être de la famille, pour la sauvegarde de la famille. Une citerne, un puits, une source. On n'a pas besoin d'être un spécialiste, frères et sœurs, pour se rendre compte d'une grande campagne indirecte de dévalorisation de la femme. Tout l'accent est mis sur le physique, la beauté, tout en oubliant de signaler qu'un être humain, et une femme en particulier, n'est pas que chair. C'est pas que la chair, que le physique. On met plus d'accent sur le physique. L'être humain, c'est un mélange, une combinaison du spirituel et du physique. C'est ce qui donne ce résultat merveilleux, l'homme ou la femme, et surtout la femme, être merveilleux. L'un ne va pas sans l'autre. En mettant trop d'accent sur le physique de la femme, sans faire aucune allusion à son côté spirituel, on pousse certaines à faire n'importe quoi pour avoir le physique soi-disant idéal. Et quand cela ne marche pas comme elles l'auraient souhaité, elles sont prêtes à mettre fin à leur vie. Il y a beaucoup de cas de suicide qu'on n'explique pas. Parfois la raison est là. Chirurgie ratée. Personne ne peut rien dire. C'est la liberté. Laisse-les mourir. Laisse-les se sacrifier, se massacrer. Ils ont droit. La femme, être merveilleux, créature merveilleuse. Personne ne leur a jamais dit que leur valeur ne dépend pas seulement ou que du physique. En lisant l'Ancien Testament, chers amis, frères et sœurs, nous y voyons des hommes dont on dit que leur femme était très belle, comme par exemple Abraham. Abraham a même accepté de mentir. Pour quelle raison? Parce qu'il ne voulait pas qu'on le tue à cause de sa femme qui était belle, très belle. On dit que Rebecca était belle. Et il y a d'autres personnes encore, d'autres femmes dans la Bible qui étaient très belles. Mais vous savez, une chose qui a retenu mon attention, c'est qu'en lisant l'histoire de la création, quand Dieu a présenté Ève à Adam, quand ce dernier l'a vue pour la première fois, il a dit tout simplement, vous connaissez bien ce texte peut-être, voici celle qui est os de mes os et chair de ma... Répétez avec moi, voici celle qui est os de mes os et chair de ma... On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il n'était pas fou de joie. Waouh, j'allais le dire en créole, c'est mieux de le dire en créole. Waouh, gardons bel bébé. Waouh, chez nous on dit ça. Waouh, gardons femme. On dit aussi, gardons femme. Ça c'est l'admiration haïtienne. Mes amis, gardons femme. Tu sais ça, Laura, Sarah. Salut, c'est le créole. Vous voyez, pour nous, on s'exprime vraiment. Hein. On ne cache pas nos sentiments, nous. Mes amis, regardons bébé. Adam n'était pas fou parce que Dieu lui a présenté une belle femme extraordinaire, top modèle. Il a pu comprendre que c'était os de ses os. C'était une partie de lui-même. Cette notion échappe à la société d'aujourd'hui. La femme n'est pas considérée comme os des os de l'homme. La femme est considérée comme un extraterrestre qu'il faut transformer, qu'il faut pour qu'elle soit toujours à l'état pur. Je ne sais pas. Je n'ai pas de mots pour décrire la mentalité de notre société. Mais je trouve que notre société est vraiment méchante par rapport à son attitude face aux femmes. On fait semblant défendre les droits de la femme, mais il y a une chose qu'on passe sous silence. La vraie valeur de la femme, la vraie valeur de nos jeunes filles, la vraie valeur de mon épouse, de votre épouse, de nos femmes, de nos chères sœurs. Personne n'en parle. Chers amis, voilà un texte qui jugera les gens de cette génération qui sont prêts à sacrifier littéralement leur corps ou le corps d'une femme pour soi-disant lui rendre sa beauté, sans jamais lui apprendre qu'elle est une source, une citerne, un puits de par sa création. Ce n'est pas les opérations, interventions chirurgicales qui vont faire de vous, femmes de l'Église, une source, un puits, une citerne. Dieu vous a créé de façon extraordinaire. Il a mis en vous tout ce qui doit contribuer à votre valeur. Est-ce que vous le saviez ça, femme de l'Église? Ce n'est pas votre couleur, ce n'est pas votre taille, votre poids, votre valeur, c'est intrinsèque. Dieu vous a créé avec cette valeur. Et votre responsabilité, c'est de la développer, la conserver, la développer. Ne dites pas parce que je ne ressemble pas à telle star de télé, tel top modèle. Il y en a qu'on vous présente, elles ont subi plusieurs opérations. Ce n'est pas du vrai. Hein? C'est vrai, ce n'est pas du vrai. C'est pas du vrai, je vous dis.
Vous écoutez Logos Pod. Prenons une nouvelle pause avec Léa Vincent, Yeshua. le Gospod.
Écoutez, je ne suis pas Josué pour arrêter le temps. Donc, je vais avancer, augmenter le rythme. Écoutez bien. Dans les pays pauvres, il y a des endroits où la sécheresse est tellement terrible que les autorités sont prêtes à investir des fortunes pour creuser des puits. Écoutez bien, ça c'est important. Pour trouver des sources d'eau, prêtes à investir des fortunes pour trouver des sources d'eau. Et lorsqu'un beau jour, après des heures de forage, le précieux liquide jaillit du profondeur de la terre. On entend des cris de partout, des cris de joie, des transports d'allégresse. Voilà, il y a de l'eau maintenant. On a un puits, on a une citerne. Je ne sais pas si vous ne connaissez pas ça, vous les Français. Vous êtes trop bien, il y a de l'eau partout. Nous, on connaît ça là-bas. Quand quelqu'un arrive à creuser un puits, à se construire une citerne pour avoir de l'eau dans les moments de sécheresse. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Et puis voilà, quand l'eau jaillit un jour, on entend des cris de joie. Comme on dirait un dimanche à Bamako, c'est ça, à Bamako. C'est un jour de mariage, un jour de fête, c'est ce que j'entends dans le chant. Un dimanche à... On est content, on se réjouit, on tressaille de joie. Écoutez, la femme, nos femmes... Ma femme, votre femme, ta femme doit être valorisée dans son intégralité, pas seulement pour son aspect physique. Elle est une source pour son mari et pour lui seul. Elle est une source pour son mari et pour lui. Waouh, c'est trop fort ça, on ne peut pas le dire. C'est une source, répétez, c'est une source pour son mari et pour lui. Wow, je risque encore la lapidation. La responsabilité de l'homme, rapidement, c'est lutter contre la tentation d'aller boire ailleurs, comme nous le dit le texte, dans la citerne de son voisin. L'homme doit s'efforcer, il doit lutter quotidiennement pour ne pas aller boire dans la citerne de son voisin. Répétez ces expressions. Vous allez tout oublier, c'est que ces petits mots que vous allez garder à l'esprit. Il doit s'efforcer pour ne pas aller boire dans la citerne de son voisin. Ça bien. Même si vous oubliez tout, ce n'est pas problème. Dans la citerne de son voisin. Écoutez encore, quand j'étais enfant, rapidement, jusqu'à ma jeunesse, même dans mon pays Haïti, mon père était l'une des premières personnes à avoir... une citerne. Le seul à avoir une citerne dans notre petite localité de Provenchère, dans les montagnes de Kinskoff en Haïti. Dans les périodes de sécheresse, il donnait de l'eau à tout le monde ou bien à certaines personnes pour éviter qu'elles aillent trop loin dans la source ou bien dans l'une de nos sources pour en chercher. Le chemin n'étant pas trop facile, il fallait parfois 1 heure, 2 heures pour aller à la source chercher de l'eau. Mais après quelques années, la situation a évolué et on trouvait des gens, beaucoup de personnes qui avaient leur propre citerne, leur propre réservoir. Mais malgré cela, il y avait parfois des gens qui surveillaient notre absence pour puiser de l'eau dans notre citerne en conservant précieusement la leur. Vous pouvez imaginer notre mécontentement, surtout en période de sécheresse. Mes frères et sœurs, tous les hommes peuvent comprendre qu'à l'heure actuelle, il existe des écoles spécialisées en séduction. On enseigne à nos sœurs l'art de séduire, de faire tomber les hommes. Qu'ils soient mariés ou pas, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment leur problème. En dépit de tout, il ne faut surtout pas baisser les bras. Le Seigneur a promis une récompense au vainqueur. Si la fidélité... est le cadet des soucis de notre société. Pour nous autres chrétiens, nous sommes appelés à faire la différence. Ne sacrifions pas le bonheur de nos enfants pour un moment de plaisir futile, pour une jouissance passagère. Le Seigneur n'est pas indifférent à notre combat quotidien. Il nous a donné la victoire par la mort, par sa mort à la croix. L'exhortation qu'il a adressée aux hommes de l'Église est claire. Ne la convoitez pas dans votre cœur pour sa beauté. Ne vous laissez pas séduire par ses paupières. Proverbe chapitre 6, verset 25. Et plus loin, nous lisons, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Proverbe chapitre 6, verset 32-33. Et enfin, l'exclusivité du lien matrimonial. La parole de Dieu ne se lasse pas, frères et sœurs, de nous répéter la même chose. Pour nous, il en est autrement. Nous avons tendance à surveiller combien de fois la même chose apparaît dans des messages différents. Nous pouvons même être tentés de le considérer comme de la paresse intellectuelle chez le prédicateur. Néanmoins, comme je vous l'ai dit si souvent, votre épouse doit être pour toi, pour vous et pour vous seul. Le mariage n'est pas un site communautaire où tout le monde vient créer son espace personnel. Dieu veut que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Je vous poserai cette question. Sur quelle chaîne de télévision entendrez-vous ce message? Pour certains, tenir un tel discours, c'est tout simplement de la marche arrière. Pour nous chrétiens, cela fait partie de notre mission terrestre qui consiste à briller comme lumière, à être celle de la terre. Contrairement à la grande permissivité de la société actuelle, où les gens vont jusqu'à échanger de conjoint pour un certain temps, la Bible reste catégorique. Tes ruisseaux ne doivent pas couler sur la place publique. Tes sources ne doivent pas se répandre dehors, qu'ils soient pour toi et pour toi seul. Si par un moment de grande faiblesse, par manque de vigilance, il vous est arrivé de passer à côté de ces valeurs, de tromper votre conjoint à qui vous avez promis fidélité, je ne vous dis pas que ce n'est pas grave, mais je sais que rien n'est trop grave pour le Seigneur. Si vous vous repentez sincèrement, si vous acceptez de vous confesser humblement devant la personne que vous avez trompée, le Seigneur peut vous donner son pardon. Sachez que je ne m'adresse à personne en particulier, car j'ai toujours eu comme principe de ne pas m'intéresser à la vie privée des gens, afin que je sois libre dans mes prédications. Que le Seigneur vous fasse grâce de mettre en pratique ses principes de vie, ses principes de bonheur pour le bien-être de votre foyer respective et surtout pour celui de vos enfants, ces enfants que le Seigneur vous a confiés. C'était long, c'était dur, mais c'était vraiment pour le bien-être de votre famille. Prions le Seigneur. Père, je te remercie encore pour cette parole. Je ne sais pas pour qui tu l'as envoyée, mais tu connais très bien nos cœurs, Seigneur. Que ce ne soient pas des paroles en l'air, mon Dieu. Que ce ne soient pas des pierres lancées dans la mer, dans l'eau. Mais que ces mots, ces paroles puissent vraiment toucher des cœurs. Aider nos frères et sœurs, et surtout les hommes de l'Église, à être ce que tu veux qu'ils soient, celle de la terre. Lumière du monde. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Je vous rappelle que vous êtes sur la radio Ebenezer International à l'heure de Logaspod. La toute dernière pause avec Marilyn Rofidal, Son soleil.
Quand tout s'effondre autour de toi.
Logaspod.
Go! et rien ne sera pareil. Quand Jésus viendra sur toi, celui qui t'appelle est fidèle.
Le Gospod.
Everyday, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station. Fidèles auditeurs de la radio Ebenezer International, fidèles auditrices, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Logos Pod, un programme qui vous a permis d'écouter ce message autour de la famille. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez nous les envoyer via l'adresse email signalée sur notre page d'accueil. Allez sur le lien contact, vous trouverez francradio@podomatic.com. francradio@podomatic.com. Nous serions très heureux de recevoir vos commentaires, suggestions ou vos questions concernant cette émission. Avant de partir, j'aimerais remercier mon épouse Gerline pour sa contribution à la réalisation de ce programme. Je pense que tu as un dernier mot, Gerline, avant de clore cette page.
Effectivement, Franck, avant de partir, je voudrais remercier tous les artistes qui ont contribué à la réalisation de ce programme, tels que Dany Hurtrel, Léa Vincent, Félana, ainsi que Marilène Rofidal.
Quant à moi, j'ai une salutation toute particulière à toutes les femmes qui sont à l'écoute de la radio Ebenezer International et plus particulièrement cette édition spéciale de Logos Pod autour de la famille.
Nos remerciements vont également à la société Sephora Musique de la Vie pour sa collaboration avec la radio Ebenezer International.
Et à vous tous, fidèles auditeurs, fidèles auditrices qui étiez branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de Logos Pod.
C'était pour vous servir au micro et à la technique
votre ami Franck
et Gerline
qui ensemble vous disons
merci
et au revoir. Vous venez d'écouter Logos Pod sur la radio Ebenezer International, The Digital Gospel Journal.
Détends-toi, laisse la confiance s'installer entre nous. Parle-moi de de tes confidences. Je t'écoute jusqu'au bout.
Le gospel.
Je voudrais m'approcher de toi. Je voudrais devenir ton ami. T'assurer que tu comptes pour moi. Beaucoup plus qu'on ne te l'ait jamais dit. Moi aussi, j'ai tant à te dire, tant d'amour à donner. Je suis prêt au meilleur comme au pire. Tu le sais, je l'ai prouvé. Je voudrais gagner ton honneur. Je voudrais devenir ton héros. Restaurer tout ton être intérieur. Te donner ce qui te fait défaut. Je saurai recueillir tes larmes, pardonner quand tu m'as contrarié. Je ferai chanter de joie ton âme.